48 FM.
48 FM.
Et la lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. Sinon pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein à la rue, plein les commissariats, plein les correctionnels, plein votre vie. Tout le monde a une histoire.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de littérature où seul le style, seul les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.
Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes dans l'émission, quel numéro, Ludo ?
La 21e émission.
La 21e émission de Par le bout de la lorgnette.
Voilà, j'étais en train de manger, c'est pour ça que j'ai essayé de laisser Loïs présenter cette émission. Eh ben, ça marche pas, mais c'est pas grave pour une prochaine.
Tu sais qu'on parle pas la bouche pleine.
Non, c'est pour ça que j'ai fini de manger très bien. Pourquoi, j'en ai encore ? Non.
Oui.
ça ne s'entend pas. Une 21e émission sur le thème des romans d'adolescents. Et avec nous aujourd'hui, Pauline. Salut Pauline.
Salut tout le monde.
Et Loïs, vous l'avez entendu. Également Nico, salut Nico.
Bonjour tout le monde.
Et bonjour particulièrement à Jean-Paul et Monique qui sont en train de faire le pâté, qu'on salue. Salut Jean-Paul.
Salut Jean-Paul, salut Monique.
Ah, c'est Jean-Paul et Monique.
Coucou à mon chéri aussi quand même. Ouais.
Voilà, les beaux-parents de Pauline qui nous écoutent, qu'on salue. On espère qu'ils vont nous réserver un pâté aussi.
Hein, j'espère, nous en je croise les doigts.
Voilà, tu nous diras dans 2 semaines pour la prochaine émission, savoir si on peut en récupérer ou pas. En attendant, c'est les adolescents. C'était un thème choisi par Héloïse. Et donc, Héloïse va nous présenter Les Petites Reines.
Les Petites Reines, donc un roman de Clémentine Beauvais aux éditions Sarbacane. Donc en fait, c'est l'histoire de trois jeunes filles qui sont donc au collège et qui sont élues à la fin de l'année par leurs camarades sur Facebook les trois boudins du collège en fait. Donc il y a le boudin
ouais,
d'or,
chouette,
le boudin
ouais,
de bronze, sympa. Le boudin d'argent, voilà. Et c'est très violent, c'est sur ce genre de pratique. C'est vrai que ça arrive assez souvent sur les réseaux sociaux, etc. Et donc ça va les rapprocher toutes les trois. Elles vont décider d'en rire et d'en jouer. Et donc, elles vont se lancer dans une espèce de quête. Comment dire ? Elles vont se mettre au vélo, elles vont se mettre au sport déjà. Et
dans une quête de maigrissage ?
Non, non, en fait, non. C'est pas vraiment
on
ça.
Dit,
c'est
on dit amaigrissement. Juste au passage.
Parce qu'elles assument.
On peut
elles
faire des néologismes sur cette radio, non ?
Non, non, on ne peut pas. Pas
on
dans cette
pas,
émission
bon.
Littéraire.
C'est vrai.
Non, mais elles assument totalement leur physique. Elles ne sont pas à vouloir maigrir, à vouloir se changer totalement.
C'est une mauvaise réponse, je trouve, tu vois.
Oui,
de
mais
dire aux adolescentes d'être trop grosses, maigrissez, quoi.
Non, c'est pas ça. Je te dis, elles vont se mettre au vélo. Et en fait, elles vont faire. Donc, elles habitent à Bourg-en-Bresse. Bourg-en-Bresse-Paris en vélo. Donc,
oui, ça fait trotte quand même.
Avec, ouais, bah oui. Et en fait, avec une carriole derrière elles. Et elles vont vendre du boudin. Voilà.
Ah, d'accord.
Et elles vont faire le tour des villages, etc. Ça prend une ampleur incroyable au niveau médiatique. Tout le monde est derrière les boudins, etc. Et elles ont un objectif à Paris. Chacune un objectif personnel à Paris qu'elles vont atteindre, etc. Et donc, c'est vraiment très, très drôle.
En même temps, elles maigrissent ou pas ?
Bah, oui, forcément, elles maigrissent parce qu'elles font du sport. Mais
c'est pas
vraiment
le
pas le thème.
Voilà.
Enfin, le thème du bouquin, c'est pas le voilà.
Mais en fait, le thème, c'est quoi ? C'est de dénoncer un petit peu cette...
Dénoncer ça et les pratiques comme ça au collège, la violence verbale qu'on peut, qu'on peut
la
subir.
La ministre, hier soir, a annoncé certaines mesures, d'ailleurs.
Oui, c'est tout à fait dans l'actualité.
C'est
ouais,
tout
pour
à
le
fait
coup.
Ouais, d'actu.
Alors, Héloïse va nous détailler les mesures annoncées par la ministre hier soir, vu qu'elle nous a dit qu'elle était devant sa télé hier soir... regardez attentivement cette annonce.
La donc. Grande librairie, moi je regardais hier soir. C'est jeudi la grande librairie.
Ah oui, mais autant pour moi. Donc, très bien.
C'était sur la philosophie ?
Je ne sais plus.
Il y a eu Finkielkraut, non ?
Finkielkraut, non.
Non ?
Je ne sais
non,
plus.
Non, parce que moi j'ai regardé une émission sur Arte, c'était incompréhensible. Tu ne pouvais pas comprendre 2 mots de la phrase qui était donnée, quoi.
Mais c'était Finkielkraut qui parlait ?
Il y avait Finkielkraut et plusieurs philosophes qui parlaient.
D'accord.
De la recherche philosophique, c'était passionnant, mais incompréhensible.
D'accord.
Pour les non-initiés, c'était... Non, c'était... Je me suis posé la question, j'ai dit, mais à qui s'adresse ce genre d'émission ? Enfin, en tout cas,
Je viens de recevoir un SMS, Jean-Paul a vu cette émission, il a compris par contre. Voilà, tiens à le dire. C'est bien de pointer du doigt ces problèmes des réseaux sociaux, parce que c'est très très dangereux à l'heure actuelle pour les jeunes. Nous, à notre époque, ça n'existait pas, on n'avait pas ces problèmes-là. Il y avait toujours des rumeurs qui partaient, mais ça avait moins d'ampleur.
Oui, ça prenait pas autant d'importance, voilà. Effectivement, avec les portables, etc., avec les ordinateurs. Mais ce qui est bien aussi, c'est qu'on en rigole, enfin que... Ça prouve qu'on n'est pas obligé, voilà, de prendre ça au sérieux, que c'est vraiment que c'est anecdote. Enfin, quand on subit ça, quand on est adolescent et qu'on subit ça, bah, que ça va passer et c'est quelque chose que dont il faut rire et il faut en jouer, quoi, je pense.
C'est l'auteur. Tu nous redonnes son nom, s'il te plaît.
Clémentine Beauvais.
Nico.
Et c'est vraiment écrit pour des jeunes.
Ah oui. Ouais. Oui.
Alors Clémentine Beauvais, en fait, c'est une Française, hein, comme son nom l'indique, Beauvais. Elle est née en 1989. Voilà. Elle a fait ses études à l'université de Cambridge, voilà, en Angleterre, où elle termine actuellement un doctorat. Donc Clémentine Beauvais, actuellement, a publié 5 livres. Elle est très jeune, hein, même quand on regarde sa photo. Voilà. Elle a publié 5 livres pour enfants en France, dont On n'a rien vu venir, hein, chez Alice Jeunesse, Samia et les fantômes et La Pouilleuse. Alors son premier livre a été publié en 2010, elle a publié en France chez Talent Haut, Alice et Sarbacane, et bientôt en Angleterre chez Hooder Children Books. Voilà, elle écrit pour tous les âges en fait, petits, jeunes et adultes.
La maison d'édition, Héloïse ?
Sarbacane.
Qui est une maison d'édition...
Une maison d'édition jeunesse qui produit des albums et des romans de qualité, ouais, pour les gens, pour les jeunes, pour les enfants.
D'accord. C'est un livre de combien de pages, à peu près? Quel format? Pour expliquer...
C'est à peu près de 200-250 pages.
D'accord. Donc
mais ça se lit très bien. C'est un style assez aéré. C'est un peu comme du parler, tu vois. Donc c'est quelque chose de... d'assez jeune, ouais.
Pour garçons ou filles mélangées.
Ah oui, il n'y a pas de problème.
Ouais. D'accord, donc vraiment à conseiller pour les jeunes.
Ah oui, c'est vraiment génial et ça, c'est un livre, je pense, qui peut faire du bien à tout le monde.
Alors, je vais quand même vous donner deux informations, enfin trois, sur le ministère donc, de l'Éducation nationale qui a présenté aujourd'hui les mesures contre le harcèlement. Enfin, hier, les mesures contre le non au harcèlement. Donc, il y aura un numéro d'appel raccourci, le 3020. Pour lutter, parce qu'il faut savoir quand même qu'il y a 700 000 cas d'enfants qui sont harcelés en France chaque année. Ça va en gros de l'école primaire au lycée, quoi, hein. Donc voilà. Donc il y a le numéro spécial raccourci, c'est le 3020. Ensuite, il y aura une journée nationale qui sera décrétée. Voilà. Et ensuite, des spots télévisés pour sensibiliser les jeunes au non-harcèlement.
Voilà, la journée nationale, on n'a pas la date encore ?
Non.
Parce qu'à la limite, on pourrait faire une émission en direct d'un établissement pour présenter des livres,
oui,
comme celui-là. Ça pourrait être intéressant.
La première édition est prévue le 5 novembre.
Le 5 novembre.
Ah. Voilà, c'est
non, on ne peut pas.
C'est un peu juste.
C'est trop tôt.
C'est avec du 6. Hein.
Oui, voilà, absolument. Les petites reines, donc, à conseiller, on reviendra dessus en fin d'émission pour rappeler un peu cet ouvrage. On continue dans nos romans adolescents avec Circus Mirandus, Pauline.
Oui, Cassie Bisley aux éditions Ozou. Alors, c'est l'histoire du petit Mika Tuttle. Il doit avoir une dizaine d'années, je pense. Et il vit avec son grand-père, Ephraim, depuis le décès de ses parents. Et depuis toujours, son grand-père, il lui conte l'histoire de l'incroyable cirque Mirandus. Donc, c'est un cirque magique. On peut y croiser des animaux qui parlent. Un tigre qui garde la porte et qui peut disparaître, une femme oiseau. Pour rentrer, on a des tickets spéciaux. Alors le ticket du grand-père de Mika, c'était un poisson, par exemple, qui lui a permis d'accéder à vie au cirque. C'est un ticket illimité. Et il y a surtout dans ce cirque l'homme qui plie la lumière. Donc c'est un magicien très puissant qui peut emmener ses spectateurs dans des contrées incroyables, avec des vraies sensations, enfin... Un cirque absolument merveilleux.
Et étrange.
Un peu étrange, ouais. Un peu étrange, mais très, très magique. Plein, plein de magie. Et donc, un jour, le grand-père Ephraim va tomber malade. Et la tante Gertrudis, la grand-tante, en fait, la sœur du grand-père Ephraim, va venir s'installer dans la maison. Et elle hait ces histoires de cirque, elle déteste la magie. Et donc elle fait tout pour que plus personne ne parle de magie dans la maison. Elle interdit même au petit Mika d'aller voir son grand-père. Enfin bon, elle essaye de casser tout cet esprit, toute cette ambiance magique qui existe dans la maison. Malgré tout, on s'en doute, le petit Mika, il va quand même réussir à aller voir son grand-père et à continuer de parler de ce cirque merveilleux, à écouter ses histoires. Et là, en fait, le grand-père Ephraim va lui dévoiler un secret absolument incroyable, c'est que c'est pas un conte, ce cirque.
C'est une vraie histoire.
Voilà, c'est un vrai cirque qui existe vraiment. Et grand-père Ephraim, vu sa situation, a écrit une lettre au plieur de lumière, donc le très puissant magicien, parce que le plieur de lumière lui avait promis petit un miracle. Et donc il veut réclamer son miracle. Le grand-père, ouais. Le grand-père petit s'était fait promettre un miracle, et là, il a besoin que le plieur de lumière.
Quel âge le grand-père, en fait ?
Il doit avoir dans les 80 ans, je suppose. Je ne sais pas si c'est dit. C'est un vieux monsieur.
D'accord.
Ouais. Donc avec son amie Jenny Mendoza, sa copine d'école, qui est la plus intelligente de la classe, la plus futée, Mika, il va se mettre à la recherche du cirque et de l'homme qui, selon lui, va guérir son grand-père. Donc je vais m'arrêter là pour l'histoire, parce que sinon je vais tout vous raconter, même si j'en ai très envie, mais bon. C'est un livre vraiment... C'est merveilleux.
C'est vrai, c'est merveilleux.
C'est merveilleux parce que c'est un livre vraiment merveilleux. Il a un petit côté, moi je trouve...
Comme des mille et une nuits un peu, non ?
Non, alors... Il y a un côté, moi j'adore Big Fish et j'ai vachement retrouvé ce truc des histoires un peu incroyables avec les personnages un peu incroyables, le grand-père qui raconte des histoires, personne ne sait vraiment si c'est vrai ou si c'est pas vrai, donc il y a ce côté-là qui est assez chouette. Et il y a aussi le côté un peu Narnia ou Peter Pan où en fait on nous pousse à garder un petit peu d'innocence et à croire en la magie, à croire que voilà, il reste des choses merveilleuses dans le monde et il y a le Circus Mirandus, c'est une merveille et il est là et il existe.
Mais t'y crois toi au Circus Mirandus ?
J'ai été vachement touchée, on a
envie d'y croire en fait,
ouais,
c'est ça.
Ouais. Cassie Bisley, elle a vraiment réussi son truc, c'est qu'on a envie d'y croire et c'est très chouette. Donc en plus la relation entre Mika et son grand-père, elle est vraiment touchante. Les personnages sont chouettes, la petite Jenny, là, qui est la plus intelligente de la classe, qui accompagne Mika dans sa quête du cirque, elle ne veut pas du tout y croire. Alors elle invente des théories absolument incroyables sur les animaux particuliers du cirque, par exemple. Elle dit « Oh, vous devez avoir des généticiens incroyablement forts pour créer de tels animaux ». Elle ne veut pas, elle refuse d'y croire. Du coup, elle est à la fois un peu comique, parce qu'elle fait des réflexions qui sont complètement à côté de la plaque, et un peu triste aussi. Donc, on passe par un tas de sentiments, c'est très touchant. Et du coup, j'ai bien aimé, j'ai lu une interview de Cassie Bisley qui disait qu'elle a grandi entourée de livres de fantasy et elle a toujours imaginé qu'elle pouvait aller donc à Narnia ou à Poudlard. Et voilà.
Comme toi, Ludo.
Oui. Non, mais moi, j'adore les livres comme ça.
Mais moi aussi, j'aime beaucoup. Ouais.
Mais c'est entre la fantasy, l'anticipation, il y a un peu tout, parce que le plieur de lumière.
Anticipation, pas vraiment. C'est vraiment.
C'est fantasmagorique un peu.
Ouais.
C'est ça
le terme est. Ouais, c'est tout à fait ça.
Tu as l'air totalement conquise par ce livre. Après, il faut préciser, c'est le premier livre positif que Louise te fait lire depuis un an et demi. Donc.
Ça fait du bien.
Quelque chose un peu merveilleux. Tendre, je suis très contente. Léger, ouais.
Et le grand-père ne meurt pas.
Je ne sais
on
pas.
On ne dit pas, Héloïse.
Héloïse, enfin.
Nico, est-ce que tu as quelques informations sur cette écrivain ? Tu parlais d'une interview.
Il n'y a pas grand-chose. J'ai pas trouvé grand-chose sur elle. Même si, alors, j'ai été voir sur le site des éditions Ozu. Il y avait un tout petit texte. Chez Penguin, elle est éditée chez Penguin.
C'est une traduction, du coup ?
Oui, c'est une traduction. C'est une américaine. Voilà, j'ai vu qu'elle vivait dans une maison en campagne, dans la campagne géorgienne, avec sa sœur, qui a écrit aussi des romans pour enfants. Mais voilà, il n'y a pas grand-chose sur sa vie. J'ai même pas trouvé son âge. Mais c'est son premier roman et c'est franchement une réussite.
C'est un très beau livre. La pochette est très belle.
C'est ce que j'ai regardé.
Ouais. Et tu dirais à partir de quel âge ?
C'est pour les petits, moi, je dirais.
Oui, c'est ce que j'allais dire, 9-10 ans.
Hein, ouais, 9-10 ans. Alors, c'est un assez gros livre, alors ça risque de leur faire peur.
Par contre,
Mais il faut pousser un peu.
Il y a quand même 1000 pages. Hein. Non, il y a 350
pages. Non, c'est 350 pages. Donc,
et c'est écrit très gros encore.
Mais voilà, c'est écrit gros et ça se lit facilement. Et c'est vraiment un bon moment, un moment merveilleux.
Ça n'appelle pas une suite, ce livre ? Non.
Si, ça pourrait. Ça pourrait.
Ok, super.
Tu nous lis un petit passage ?
Ah, j'ai pas prévu de passage à lire.
Mais écoute, on va te laisser en choisir un.
Je t'en ai trouvé un, là. Okay. Le père d'Éphraïm.
Alors, le père d'Éphraïm adorait les récits d'aventure. Et parfois, avant de se coucher, il lisait à son fils des histoires sur les grands explorateurs du passé. Papa aimait particulièrement découvrir la vie des marins célèbres. La jungle était une autre histoire. Il y avait des lieux dans les forêts si bien dissimulés qu'aucun homme n'y avait encore mis les pieds. Ce qui voulait dire qu'une personne courageuse, une personne qui s'appelait peut-être Éphraïm Tuttle, serait la toute première à les découvrir.
Ouais, très beau.
Ouais, c'est très poétique, ouais.
Oui, c'est bien écrit, hein.
Ouais. Très chouette, vraiment à lire.
Ouais, ça donne envie. Mm-hmm. Mais peut-être que c'est intéressant, peut-être. Alors, je sais que les ados, les enfants, autour de 9-10 ans, ils décrochent un peu sur la lecture. Enfin, spontanément, ils n'ont pas forcément envie de prendre un bouquin, ils ont plutôt envie de se mettre devant la play et, ou la téloche le soir. Peut-être que intéressant ce bouquin, c'est que la maman ou le papa lise. Une partie de l'histoire avec lui, ou l'accompagne dans la lecture, parce qu'un bouquin comme ça, il faut le prendre par petits bouts, en fait, un peu tous les, pas tous les soirs, mais tous les deux soirs. Si on démarre à 8-9 ans, par exemple, 8 ans,
ouais,
on peut lire avec lui dans le lit un petit passage juste avant de se
dormir. Ça c'est chouette. Et puis ça va tout à fait dans l'esprit,
parce que ça va dans l'esprit de ça. Et ça, c'est vraiment un bouquin conseillé à Noël. Les parents l'achètent, ils lisent, et en fait quand on lit avec l'enfant, même 10 minutes c'est rien, quoi. Et par contre, c'est un super moment d'échange avec l'enfant.
Ouais.
Oui.
Donc voilà un conseil.
En plus, 300 pages, on en a pour jusqu'à Noël d'après, donc c'est bien. C'est super.
Non,
après,
mais ça
permet d'accrocher aussi.
Et ça accroche les gamins à la lecture, ouais, c'est sûr.
Ça peut être pareil avec Harry Potter ou ce genre de livre. C'est quelque
chose. Tout à fait. Tous ces bouquins, je trouve que c'est très.
Et d'ailleurs, Harry Potter, il y a une version qui vient de sortir illustrée.
Ah.
Voilà. Un gros livre Harry Potter illustré, très, très, très beau.
Ok. Ouais.
T'es fan, toi, d'Harry Potter ?
Ah ouais, j'adore Harry Potter.
Ah oui, moi aussi.
Harry le Potier.
J'ai pas lu, moi. Oh. J'ai vu les films, mais j'ai pas lu. Il faudrait que je lise.
C'est vrai.
Mais je connais l'histoire maintenant, alors c'est un peu embêtant de s'attaquer au livre.
Ah, mais c'est
après.
Pas pareil.
Oh, oui, non, c'est
bien.
Pas pareil. Tu peux te lancer.
Ouais. Ok, Circus Mirandus, un très beau livre. Je vais l'acheter, celui-là. Pour moi d'abord et après pour mon enfant. Nico, Nous voulons tous le paradis.
Nous voulons tous le paradis de Else Birten, qui est un écrivain flamand, hein, c'est une femme, de littérature jeunesse, qui est née en 59 et mère de 3 enfants. Elle étudiait la philologie germanique néerlandaise-anglaise à l'université catholique de Louvain et a également étudié à l'académie de théâtre à Maastricht. Voilà. Elle enseigne l'anglais, le néerlandais dans le secondaire ainsi que l'écriture créative à l'académie d'Anvers. Ce livre, en fait, il a été salué par la critique de façon unanime, et a reçu en 2013 le prix de la communauté flamande de littérature jeunesse. Donc c'est une jeune femme qui écrit en néerlandais, en fait. Hein. Voilà. L'histoire est très particulière. En fait, elle parle de la guerre 39-45, hein, et du rôle qu'a joué la Flandre. Et en fait, les Allemands avaient besoin, en 1943, de jeunes hommes pour aller se battre sur le front de l'Est contre les Russes. Et du coup, dans cette histoire, il y a deux personnages. Enfin, on assiste en fait à toute une famille qui, à travers laquelle on va vivre en fait toute cette histoire et certains faits de guerre. Voilà. Donc, Ward et son ami Jeff, en fait, aimeraient devenir des héros. Depuis qu'ils sont tout petits, ils pensent un petit peu aux héros et ils souhaiteraient, donc ils imaginent qu'en s'engageant, en fait, ils vont devenir des héros.
En s'engageant auprès des Allemands, du coup, c'est ça ?
Ouais, okay. Sur le front de l'Est, auprès des Allemands. Donc Ward, lui, décide de partir, mais le père de Jeff empêche son fils, en fait, de partir et il reste donc en Flandre. Il veut protéger, en fait, sa famille, la tenir à l'écart de ce conflit qui ressent comme un conflit qui est vers sa fin, donc c'est dans les années 43. Donc c'est vraiment, on est à la fin de la guerre, il sent que l'armée allemande va perdre et qu'il ne faut pas s'engager là-dessus. Donc il garde cette famille à l'écart de ce conflit. Et Renée, la sœur de Jeff, tombe amoureuse en fait de ce fameux Ward, qui est son copain, et surtout de sa merveilleuse façon de jouer du saxo. En parallèle à ça, en fait, on assiste à la vie d'une fanfare qui répète et tous les membres de cette famille, en fait, ont des qualités extraordinaires pour jouer de la musique. Voilà. Elle-même, cette jeune fille, en fait, joue de la trompette avec son père et son frère dans la fanfare locale dont Ward fait également partie. Quand Ward s'en va, en fait, les gens du village le considèrent, lui, dans ce village-là, plutôt comme un collabo. Et son départ signe aussi la fin de son histoire d'amour avec René. Donc, en filigrane de toute cette histoire, il y a des histoires d'amour, il y a le rapport à la musique qui est très très présent, sous fond d'histoire de guerre. Voilà. En fait, c'est un roman qui est assez ambitieux, je trouve. Il va être publié en fait en deux parties. Donc il y a la prochaine partie qui sera publiée en 2016 en février.
Qui se passe après la guerre du coup.
Je sais pas.
Ouais. C'est pas annoncé.
Non, c'est pas annoncé. On peut dire que c'est un roman qui parle vraiment de la Deuxième Guerre mondiale. On sent vraiment derrière ce fond de Deuxième Guerre mondiale, cette fin de guerre. Avec tout ce qui l'accompagne, c'est-à-dire l'horreur du conflit, la résistance, la collaboration, la haine, la méfiance, les règlements de compte qu'il y a derrière. Alors, et l'histoire, par contre, elle est racontée en très courts chapitres, voilà, qui sont écrits à chaque fois à la première personne et qui restituent le point de vue en fait des personnages qui parlent, des principaux personnages. Donc, c'est par exemple. Je suis sur la route en vélo et je pars pour la fanfare. Et en fait, là, on s'aperçoit que c'est Jeff qui parle. Mmh. Après, c'est Ward qui parle. Après, c'est René. Après, c'est Rémi, qu'on appelle le petit, parce qu'il est, c'est le plus petit. Et lui, il n'arrête pas de revendiquer le fait qu'il s'appelle Rémi et pas le petit. Voilà. Et il y a plein de clichés sur la famille, mais qui sont très, très intéressants entre comment les parents vivent tout ça aussi. Sur cette crise, sur ce conflit, sur l'horreur aussi de la guerre, hein, tout ce qu'il y a derrière. Moi, j'ai trouvé que c'était très intéressant. Je me suis un peu perdu au début parce qu'il faut retrouver, quand tu lis à la première personne, qui parle. Mmh. Et donc, au début, tu sais pas vraiment qui parle. Donc, tu dis, est-ce que c'est le petit? Est-ce que tu passes de Rémi à Jeff, à René, etc.? C'est un peu... Mais tu te fais assez rapidement, en fait, à ce style. Tu rentres bien, bien dans l'histoire. Donc, c'est un roman qui parle pas de héros, bien qu'il y en ait un qui devienne un héros, c'est Jeff. Mais qui parle aussi d'une histoire d'amour. Donc, il y a beaucoup de choses. C'est pas très compliqué, en fait, à lire. C'est même très simple, hein. Ça se lit très, très vite. Mais par contre, c'est très, très touffu. C'est très ambitieux. C'est très ample. En fait, on touche plein de choses. Mais sans jamais vraiment dénoncer. Il n'y a pas d'énonciation de la guerre ou des Allemands, etc. On parle d'un conflit. C'est vu avec des yeux d'une jeune femme qui est hollandaise. Donc, je pense qu'il y a un autre rapport à la guerre et à ce conflit-là qui n'est pas du tout le nôtre. Mais par contre, les préoccupations des familles, de la famille, des parents, du père, etc., sur l'angoisse de la guerre, de leur fils qui va partir ou qui peuvent potentiellement mourir, tout ça, c'est... Et en même temps, sur la symbolique du héros, qui fait que les parents, quand ils comprennent que leur fils devient un héros par ce qu'il fait dans le bouquin, en fait, ça devient un emblème de reconnaissance sociale, quoi. Voilà.
Par contre, de la façon dont tu le présentes, on n'a pas l'air que ça s'adresse forcément à des adolescents, ce livre.
Alors, c'est vrai. Quand je l'ai lu, je me suis posé la question. Je me suis dit, mais à quel tranche d'âge ? Je pense que ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'elle aborde la Deuxième Guerre mondiale en filigrane comme ça, et que ça peut parler à des jeunes, c'est-à-dire que à 14-15 ans on a déjà entendu parler de la Deuxième Guerre mondiale, hein, puisqu'on l'attaque je crois en troisième, et du coup en seconde, donc 14-15 ans, 16 ans, je pense que c'est un bouquin qui est vraiment intéressant. C'est pas un bouquin pour les petits quand même, hein, parce qu'il y a plein de références qui font appel à quelques connaissances, mais ça peut se lire très très facilement. C'est pas une écriture qui est complexe, quoi, hein, du tout, hein. Le style est très simple, voilà. Mais en même temps, c'est ambitieux. Et je trouve que c'est une belle écriture et je comprends qu'il ait été primé en 2013. Quoi.
Et voilà. Par rapport au titre, Nous voulons tous le paradis.
Il n'y a pas vraiment. C'est plus par rapport au héros. Alors, il en fait référence un peu, surtout le petit. À un moment, il dit mais si je fais des bonnes actions, en fait, j'irai au paradis. Quoi. Et ceux qui font de mauvaises actions. Donc, il se pose la question, est-ce que Ward ira au paradis parce qu'il était très copain avec ce gamin? il se pose la question, est-ce que lui, il ira au paradis, puisque c'est un collabo? Non, il ira en enfer, etc. Donc, c'est un peu cette image des héros qui sont sûrs de gagner comme ça les honneurs du paradis, quoi.
D'accord.
Enfin, c'est un peu l'idée. Les éditions La Joie de lire dans la collection Ancrage. Voilà, moi je leur recommande. Je trouve que c'est un bouquin intéressant sur la famille, sur les rapports entre frères et sœurs, sur tout ça sous la notion de, enfin, en filigrane derrière avec cette guerre 39-45, bon, qui commence un peu à dater puisqu'il y a 70 ans bientôt. Donc c'est une histoire qu'on a oubliée, quoi, un petit peu, hein, et qu'on oublie et que les jeunes peuvent oublier. Donc, d'y faire référence, je trouve que c'est vraiment intéressant.
Ok, merci Nico. Ce livre, donc, Nous voulons tous le paradis. Allez, avant la pause musicale, je vais présenter mon livre. C'est le livre qu'aurait dû avoir Pauline, tiens, qui est arrivé chez moi. Un livre qui s'appelle Jimmy X, un roman pour adolescents de Louis Atangana, qui est professeur de français dans un collège du Lot-et-Garonne. Il est auteur de 7 romans jeunesse, dont 6 publiés aux éditions du Rouergue dans la collection Dos à Dos. Donc, c'est la collection qui accueille ce Jimmy X. Donc, cet auteur, après avoir parlé dans un précédent roman de Billie Holiday, la grande chanteuse américaine à la vie et à l'adolescence difficile, Louis Atangana s'intéresse à la jeunesse, donc en gros de 2 ans à 21 ans, de Johnny Allen Hendrix, qui allait devenir ensuite James Marshall Hendrix, plus connu sous le nom de
Jimi Hendrix.
Exactement, Héloïse. Jimi Hendrix, qui naît donc Johnny Allen Hendrix le 27 novembre 1942 à Seattle, dans l'État de Washington, aux États-Unis. Il est le premier fils de James Allen, dit Al Hendrix, et de Lucille Hendrix, née Jeter, d'ascendance Cherokee. Alors, je vous dis ça, je vous parle de ses parents, parce que vu que c'est sa jeunesse de 2 ans à 21 ans, bien sûr, même de 3 ans à 21 ans, on va suivre ses rapports avec sa famille et sa construction en tant qu'enfant, puis en tant qu'adolescent ensuite. Alors, ses parents se sont rencontrés lors d'un bal à Seattle en 41, lorsque Lucille avait 16 ans. Des parents qui sont malheureusement portés sur la boisson, à peine sortis de l'adolescence quand ils ont Jimmy. Les deux, oui. Dans une Amérique des années 40 qui reste ségrégationniste, même si Seattle à l'époque n'est pas Dallas. Il y a quand même des grandes différences entre le Texas et l'État de Washington. D'ailleurs, il a vécu dans un quartier où les échanges entre communautés étaient constants. Donc, il y a du racisme dans ce livre. On le voit tout au long du livre. Mais bon, il y a quand même une lueur d'espoir sur l'endroit où il est né, où il grandit et qui a influencé après son rapport avec les autres personnes et sa musique. Donc, en gros, on nous raconte dans ce livre la jeunesse compliquée de Jimi Hendrix avant qu'il ne devienne l'idole planétaire qu'il sera ensuite. Donc, l'auteur, c'est quasiment c'est la vraie vie d'Hendrix. Moi qui adore ce guitariste et qui connais un peu sa vie, on retrouve tous les éléments de sa jeunesse dans ce livre. Alors, ce livre commence à 3 ans car Al Hendrix, le père, ne rencontre son fils qu'à 3 ans car il était avant cela pris par des obligations militaires. Exactement, il était à Oklahoma, il était cantonné dans une base de l'armée américaine, il n'a pas eu le droit d'aller assister à la naissance de son fils. Il a une jalouserie folle, d'où des disputes incessantes avec sa femme, qui est incapable, elle, d'assumer l'éducation de son fils à cause de problèmes d'alcoolisme, des problèmes que l'on retrouve également chez le père. De Johnny Allen Hendrix, donc c'est une histoire vraie, celle d'un fils d'un couple pauvre de Seattle, avec un quotidien qui est fait de violence. Il est élevé dans la misère, il tente de survivre avec son père qui va jusqu'à le rebaptiser parce qu'il n'aime pas le prénom choisi par sa mère alors qu'il était soldat. Ce prénom qui était donc à la base, je vais revenir, Johnny.
Ouais.
Voilà. Et il le rebaptise alors qu'il s'est disputé avec sa femme. Et que sa femme est partie de la maison, il en profite pour rebaptiser et l'appeler James Marshall. Marshall qui est le prénom d'un de ses frères qui n'a pas vu le jour, qui est mort-né. Donc vous voyez un peu...
C'est gay.
Voilà, absolument. Mais ma chère Pauline, il n'y a pas que des passages un peu tristes dans ce livre. Il y a également de l'espoir. Il rencontre sa grand-mère Cherokee qu'il ne connaissait pas avant dans une réserve d'Indiens où il va y passer 2 ans, quasiment 1 an. ses parents le laissent parce qu'ils ont autre chose à faire. Donc. Et donc, il y a tout ce passage avec sa grand-mère qui aime la nature, qui se balade avec lui, qui lui apprend le respect des choses, où il rencontre enfin des copains, parce que ce pauvre Jimi Hendrix est un garçon introverti, parce que quand on passe ses soirées à entendre ses parents se disputer complètement sous, ben, on ne parle pas, on ne va pas voir les autres enfants, on a un peu peur. Il réussit à avoir une guitare à l'âge de 15 ans, il travaille pour l'avoir pendant un an, une guitare qui n'a qu'une corde, parce qu'il n'a pas d'argent pour se payer ses autres cordes, donc il va apprendre sur cette guitare pendant au moins une année à jouer, mais que sur une corde, jusqu'à ce qu'il arrive à avoir de l'argent pour se payer d'autres cordes. Donc on voit toute l'évolution de ce petit Jimi Hendrix, qui est considéré comme fou par son entourage, par ses parents et son frère, parce que il parle pas beaucoup, parce qu'il aime dessiner, il aime la musique, alors que le père aimerait bien avoir quelqu'un de robuste, quelqu'un d'un peu un vrai homme, ce que Hendrix n'était pas avec sa sensibilité. Lui, il aime deux choses, donc c'est sa guitare, le blues qui passe dans le transistor continuellement dans sa maison. On va suivre sa jeunesse, son premier amour, cette rencontre avec sa grand-mère, son départ pour l'armée ensuite, son premier groupe, ses tournées un peu calamiteuses, puis enfin son départ pour New York afin de devenir musicien, où à l'âge de 21 ans, il rencontrera le guitariste, alors c'est quel groupe ça va me revenir, je ne l'ai plus en tête, ça me reviendra tout à l'heure, qui est également producteur et qui va l'envoyer à Londres pour enregistrer ses premiers disques, où va suivre, donc ça... On arrête ce livre quand il part à Londres à 21 ans, où il va donc enregistrer ce disque et faire ses premières tournées, notamment en première partie de Johnny Hallyday en France, avant d'être reconnu et de faire son retour comme une star aux États-Unis. Voilà, donc c'est cette histoire qui s'adresse à des 14-16 ans, fans de rock'n'roll, fans de Jimi Hendrix, ou à des adolescents qui sont en rogne contre leurs parents, qui détestent leurs parents. On peut leur dire, tiens, regarde, t'as quand même une belle vie, il n'y a pas de ceinturon pour toi, il y a autre chose, on te laisse faire ce que tu aimes faire. Donc voilà, il n'a pas menti dans ce livre, Louis Atangana. Il raconte ce qu'il est, il raconte ce Jimi Hendrix qui grandit, qui se forge tout seul en tant qu'homme et son rapport avec sa musique. Son rapport compliqué avec ses parents et plus idyllique avec sa grand-mère. Donc c'est un livre de exactement 187 pages. Donc c'est dommage parce qu'on s'arrête quand l'histoire devient belle à 21 ans et qu'il part enregistrer ses premiers disques. Mais bon, c'est quand même, voilà, pour tous les fans d'Hendrix, notamment les jeunes qui se mettent à la guitare, c'est beau de lire cette histoire. Voilà, et qui pousse pas comme souvent on peut penser en se disant voilà, c'est devenu un artiste parce qu'il justement il a vécu des choses difficiles, donc c'est quelqu'un de sombre qui va puiser son blues ou son inspiration des mauvais moments qu'il a vécu. Là, l'auteur montre vraiment, voilà, il a eu une jeunesse difficile, c'était quelqu'un qui était sensible, qui était doué pour la musique à la base et qui a développé cet art, mais ce qui n'est pas dû obligatoirement à ça. Alors l'auteur, c'est un Camerounais, franco-camerounais, qui a passé son enfance à Yaoundé, qui a fait ses études à Toulouse et qui joue de la guitare. Donc peut-être, voilà, son attrait aux musiciens.
Oui, il a écrit avant. Sur Billie Holiday, c'est ça aussi, ouais.
Voilà, Billie Holiday qui, pareil, a une adolescence et une enfance compliquée, notamment également dans une Amérique un peu raciste à l'époque où elle est née et qui a une histoire compliquée avant de percer dans la musique et de connaître la carrière qu'on lui connaît. Voilà, c'est aux éditions Dos à Dos du Rouergue. Allez, on fait une pause musicale. Tu nous as choisi un titre, Héloïse, lequel ?
Morning in Japan, Fakir. Oh,
le morceau Fakir Morning in Japan. C'est un DJ, Héloïse ?
Oui, c'est un jeune DJ français qui est assez connu maintenant, qui a écrit cette chanson, La Lune Rousse, qui est la plus connue en fait.
Ok, très bien.
Voilà, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais.
Non.
Et en live, c'est très très bien.
The Rousse is Moon.
Stardust, on se rapproche de la Lune avec les étoiles.
Oui. Stardust de Neil Gaiman, je sais plus.
Neil Gaiman,
qui est un auteur très connu de science-fiction, qui a écrit notamment American Gods, qui est son livre qui a eu le plus de succès. Et donc là,
le prix Hugo du meilleur roman.
Ouais, bah voilà, Hugo c'est les prix de l'imaginaire,
le prix Nebula aussi.
Le prix comment tu
Nebula.
Dis
Nebula.
D'accord.
En SF, il y a deux gros prix, c'est le prix Hugo et Nebula. Mm.
Et le prix de l'imaginaire aussi.
Ouais, je connais Sébastien.
Ouais.
Il a eu les deux, lui.
Ouais, il a eu les deux.
Nebula, Hugo.
Le premier, il l'a eu en 2009 et 2002. Prix Hugo du meilleur roman, deux fois.
Sur le premier livre que tu présentais
sur American Gods, ouais.
Okay.
Et après, prix du meilleur roman aussi, Nebula en 2002.
Ok. Et là,
c'est un livre très bien à base de super-héros, c'est très humoristique, toujours.
Il fait de la BD aussi, lui, non ?
Alors ça, je ne sais pas, par contre.
Ouais,
je...
dessinateur de BD. Ah. Sandman.
Comment tu dis ?
Sandman. Voilà, La Vie n'a pas de prix chez Marvel. The Books of Magic.
Ok. Et là, on parle
oui,
de Stardust.
Oui, donc là, on parle de Stardust, effectivement.
Ouais, mais du coup, c'est pour expliquer qu'il y a des univers, voilà, il est sur les super-héros, tout ça, quoi.
Oui, tout à fait.
C'est le cas de Stardust ?
Oui, alors il y a plein de références, et notamment, effectivement, des références à... aux super-héros, aux contes de fées, à Narnia aussi. Voilà, c'est un mix de plein de choses. Et donc, Stardust vient d'être traduit en français, parce qu'il est sorti il y a quand même pas mal de temps, hein, aux États-Unis, en Angleterre. Il vient juste d'être traduit chez les éditions Au Diable Vauvert, dans leur collection Young Adult. Et c'est un livre qui a donné lieu à un film aussi... avec Robert De Niro, Michel Pfeiffer, qui n'a pas eu tellement de succès en France. Je crois que ça a bien marché aux États-Unis. Donc bref, Stardust, c'est l'histoire de Tristan, un jeune homme qui vit dans un tout petit village au nord de l'Angleterre, un village paumé qui s'appelle Wall. Et pour cause, en fait, il est construit à côté d'un mur. Ça fait un peu penser aussi à Game of Thrones des fois. Et donc ce mur, il y a une toute petite brèche en fait dans ce mur qui est gardée tous les jours. Personne n'a le droit de passer. Et donc de l'autre côté de ce mur, c'est le pays des fées, un pays totalement différent de l'Angleterre. Et donc on n'a pas le droit d'y aller à part un week-end tous les 9 ans. Il y a les deux mondes se rencontrent, mais c'est tout. Et donc Tristan, ce jeune homme, a promis à sa belle, à la fille dont il est amoureux, de lui ramener une étoile filante qu'ils ont vue tomber. Ils l'ont vue tomber de l'autre côté du mur. Et donc il va passer de l'autre côté du mur, il prend ses bagages et il y va.
Hein.
Et il va chercher l'étoile filante.
Une étoile filante. Ouais, c'est ça, à d'autres. Hein.
Et oui, mais bon, on est bêtes quand on est amoureux. Hein.
Et ah voilà. Bon
ouais, c'est classe quand même de ramener une étoile filante. Hein.
C'est pas mal.
Ah, si t'arrives à faire ça, mon beau, là. Voilà. Ouais,
mais elle tombe pas du côté de Mande.
Donc il va en quête de cette étoile filante. Seulement, évidemment, il n'est pas le seul à la chercher parce que le cœur d'une étoile filante, par exemple, ça donne la jeunesse éternelle. Donc il y a une vieille sorcière qui veut absolument récupérer cette étoile. Il y a un roi qui veut la chercher aussi pour retrouver son pouvoir. Donc lui, il est tout innocent, tout naïf, et il y va, et il connaît pas du tout ce monde magique qui est fait de plein de pièges, il y a plein de gens se moquent de lui, enfin, c'est qu'il va apprendre, en fait, c'est une quête, c'est un récit initiatique, quoi, il va apprendre plein de choses. Il apprend la vie, oui, tout à fait. Et, c'est très sympa. C'est vraiment un livre très prenant.
C'est merveilleux.
C'est facile à lire. C'est vrai que c'est assez merveilleux. Il y a beaucoup d'humour aussi. C'est très, très drôle. Et donc, oui, je le conseille, Stardust.
Fantasy.
Fantasy, oui, tout à fait.
Fantasy, Neil Gaiman.
Au Diable Vauvert.
Oui.
Ok, merci Héloïse. On va passer maintenant à Pauline. On revient avec Pauline. La tête ne sert pas qu'à retenir les cheveux.
Oui.
Un titre qui va très bien à Nico.
Je n'ai rien dit.
Tu n'as rien dit, c'est moi. J'en oui, assume oui, les
mais,
conséquences.
Oui, mais tu as ri, Pauline.
Oui,
ça,
un peu, un peu.
Et ça, c'est pas bien.
Oui, donc...
Harcèlement.
Ah, on y est déjà.
Drôle de titre.
Ouais, drôle de titre. C'est écrit par Pauline Penaud et Sabine Panet. Et c'est chez Thierry Magnier. Donc Pauline Penaud et Sabine Panet, elles sont copines depuis toute petite, depuis le CE2. Et elles ont toujours été de grandes lectrices. Elles faisaient du trafic de livres à l'école. Enfin bon, c'est vraiment les meilleures copines. Donc aujourd'hui, elles habitent loin l'une de l'autre. Hein. Sabine, elle est journaliste à Bruxelles. Et Pauline, elle est médecin à Paris. Mais elles ont toutes les deux vécu en Afrique. Et ensemble, elles ont écrit...
Afrique équatoriale ou Afrique...
Afrique de l'Ouest.
D'accord.
Et elles ont écrit plusieurs livres ensemble, notamment d'un recueil de contes africains. Et donc,
lequel
qui celui-ci. S'appelle Le Baluchon de la création du monde.
Ah, je ne connais pas celui-là.
Tu ne l'auras pas, elle a bien travaillé sur le sujet.
Non, non, je l'ai préparé, tu ne me piégeras pas.
Cherche pas.
Et Le cœur n'est pas un genou que l'on peut plier et qui est... qui se déroule avant La tête ne sert pas qu'à retenir les cheveux. Donc, La tête ne sert pas qu'à retenir les cheveux, c'est l'histoire de trois femmes d'une même famille qui est d'origine sénégalaise et qui sont de trois générations différentes et elles vivent à Paris et on va voir un peu leur histoire. Donc, le personnage un peu central du roman, c'est Awa, qui est lycéenne. Elle vient d'échapper à un mariage forcé, donc c'est le thème du livre précédent. On n'en souffre pas de ne pas avoir lu le livre précédent, ça c'est pas... On n'est pas paumé, quoi. Et donc, Awa consulte un gynécologue parce qu'elle a des soucis, elle a une gêne au niveau du pubis. Et donc, elle va au planning familial, alors que bon, elle n'assume pas du tout son corps, elle a très peur de sa féminité, elle ne sait même pas à quoi ça ressemble, son anatomie. Mais bon, elle y va quand même sous les conseils de la maman d'une copine qui trouve quand même un peu inquiétant qu'elle ait ses douleurs. Et là, en fait, la gynécologue lui apprend qu'elle a été excisée. Alors, au début, elle ne sait même pas de quoi il s'agit. Et là, la gynécologue lui explique, et là, elle a l'impression que, ben voilà, on l'a trahi, qu'on l'a mutilé. Enfin, moi, elle réagit très, très mal. Ça, voilà, c'est vraiment un moment très difficile pour elle. Et en fait, elle pense, elle a une petite sœur beaucoup plus jeune, et elle se dit, mais mon Dieu, non. Non, pour le coup, c'est pas un livre horrible. Pas du tout.
Non, non, ça n'a pas l'air du tout.
Non,
ouais.
Non. Je vais
oui,
vous
ça
expliquer pourquoi.
Bien.
C'est très bien.
Bref, elle décide de s'engager un peu contre l'excision, mais surtout pour protéger sa petite sœur qui, elle pense, va être excisée bientôt. Elle a l'impression d'entendre sa grand-mère va revenir du Sénégal. Elle se
parce
dit,
que l'excision, ça intervient à quel âge? C'est très jeune?
Ouais, ça c'est parfois très jeune.
C'est-à-dire 7-8 ans?
Ça non. Dépend. Là, ça peut être, il y en a des toutes petites, ça dépend. Ça varie. Il y a même des femmes d'une trentaine d'années qui se font exciser parce que voilà, elles se rendent compte en vieillissant que finalement elles sont exclues de la société parce qu'elles ne sont pas excisées. Donc elles vont se faire exciser même à l'âge adulte.
L'histoire se passe où là ?
À Paris.
À Paris.
Ouais, d'accord. Ouais, c'est à Paris, ouais. Donc voilà, ça c'est un peu l'histoire principale. Et ensuite autour, il y a plusieurs petites histoires qui gravitent, notamment celle d'Ernestine, sa sœur qui est une collégienne. Et qui rêve de devenir actrice. Et en fait, elle va se retrouver à confronter un peu des stéréotypes et des a priori, ou même des réalités qui vont un peu lui ouvrir les yeux. Notamment, elle va aller passer un casting pour un film sur les enfants dans le ghetto de Varsovie. Alors, petite noire, ils lui disent, bah non, ça colle pas. Enfin, c'est pas une réalité historique. Et elle leur fait tout un speech. Elle est très rigolote. C'est un personnage qui est très, très rigolo. Tout un speech en leur disant, mais je suis très bonne actrice, évidemment que je serai crédible. Enfin, c'est très drôle, c'est très chouette. Et donc, le troisième personnage clé du livre, c'est Dado, la tante de ces deux petites filles. Donc elle vient tomber amoureuse de Marcel. Alors c'est un bon français, un peu, on va dire, de souche, entre guillemets. Et donc ils se retrouvent tous les deux à devoir faire face à leurs familles respectives. Donc d'un côté, la famille ultra raciste qui a des remarques absolument atroces sur tout exclut le type de personnes qui peuvent vivre en France. Et de l'autre côté, lui, Marcel, va devoir faire face à une famille avec des traditions sénégalaises qui, lui, ne sont pas du tout de sa réalité, de son quotidien. Donc voilà, on retrouve ces trois filles et leur vie un peu de femme, d'amoureuse, de jeune fille.
Et les deux ados, elles vivent avec leur tante ou...
Non, elles vivent avec leur maman, mais elles ont beaucoup de D'accord. relations avec leur tante qui habite Paris aussi et qu'elles voient régulièrement. Voilà, la petite Awa qui est excisée va notamment aller voir sa tante pour lui en parler, en fait, pour lui dire, mais est-ce que toi, ça t'est arrivé? Enfin voilà, c'est très... C'est une histoire vraiment de famille et à la fois une histoire sur la condition de la femme, un peu, quoi.
Oui, c'est ce qu'on trouve en filigrane, quand même.
Ouais, beaucoup. Ouais. Et donc, ça a été vraiment, là, pour le coup, le super coup de cœur. C'était génial. Alors là, je vous ai annoncé des thèmes qui sont un peu forts et très, très durs. Mais ils sont traités avec une écriture, c'est super vif et c'est surtout hyper drôle. Mais c'est vraiment, il y a des moments d'humour, des remarques de certains personnages. C'est vraiment... très très drôle, notamment par exemple la sœur d'ado qui va écrire la tante, qui va écrire une lettre aux parents, à ses beaux-parents pour leur démontrer scientifiquement qu'ils sont d'une même race, alors avec des phrases super bien tournées. Enfin, si je pouvais vous lire plein de passages, je vous en lirais 10-15 parce que hyper drôle.
Tu vas nous en lire un quand même.
Ouais, j'en ai prévu un quand même. Ah. Et donc, en plus, ce qui est intéressant, c'est que c'est hyper documenté, toutes les hypothèses de tous les personnages, bah, sur notamment les questions de race ou pas de race.
C'est une déconstruction un petit peu. C'est-à-dire réexpliquer aux gens, parce que c'est vachement d'actualité.
Ah bah oui, en voilà. Plus, pour le coup, oui.
On tombe complètement toujours là-dedans. Mais donc, ça apporte quand même une plus-value sur... si on lit ce bouquin, on se dit finalement... il n'y a qu'une seule race, c'est l'humanité, quoi.
C'est le but. Ouais, je sais pas si c'est le but premier, mais en tout cas, voilà, on en ressort en se disant, bah, évidemment que oui. Et donc, alors le thème au cœur du livre, c'est l'excision. C'est expliqué, hein, ça je préviens. Ils expliquent, pas dans un gros détail, mais quand même assez précisément de quoi il s'agit. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'on a deux points de vue très différents. Celui de femmes africaines qui pour elle, c'est une tradition et ça domine. La question se pose même pas. Oui, on doit se faire exciser pour être pur, pour pouvoir partager la vie des autres femmes. Et de l'autre côté, les médecins, ceux qui sont contre l'excision et qui ne voient ça que comme une mutilation. Mais il n'y a jamais de jugement. C'est juste qu'on nous expose des points de vue. On y dit c'est comme ça ici, c'est comme ça là. Et donc, on a notamment, par exemple, à un moment, la maman des deux petites filles qui explique pourquoi elle s'est jamais posé la question d'exciser ses filles. Elle a dit, petite, on me disait que si on ne coupe pas les filles, les lèvres entre les jambes poussent jusqu'à ce que ça devienne long comme des oreilles de lapin. Voilà, et donc il y a plein de passages comme ça où... On me fait des signes. Vous ne voyez
c'est
pas.
C'est quoi cette image-là de Ludo en train de faire le lapin? Non mais Ludo...
Non, enfin... mais les oreilles de lapin, quoi.
Ouais.
Franchement, on les connaît.
Mais voilà.
Il faut dire aux gens qui nous écoutent, aux filles qui nous écoutent, ce n'est pas vrai.
Non, ah ouais, non, rassurez-vous, mademoiselle.
Donc, tout ça, ce n'est pas vrai. Non.
Donc voilà, au-delà de l'excision.
Mais ça pose la question du regard qu'on porte, en fait, des jugements qu'on porte sur les autres cultures. Quoi.
Bah c'est voilà. Ça sur nous, on nous parle d'excision et on se dit, mais c'est une mutilation, c'est violent. Et puis on est tout de suite.
C'est aussi une mutilation.
Enfin, oui, c'est le cas, mais on est tout de suite crispé. C'est terrible. Et là, on a un point de vue qui dit oui, mais...
Mais culturellement, ça a un sens, d'après toi ou... En ayant lu ce bouquin, qu'est-ce que ça a généré chez toi?
Non, pour moi, ça n'a pas vraiment de sens. Enfin, non, mais après, je comprends pourquoi ça peut se perpétuer. Parce que même D'accord. si c'est terrible, je comprends dans quel état d'esprit sont les femmes qui D'accord. le font. Et,
c'est un phénomène de masse, quoi.
Interdire
c'est ça
l'excision, ouais. Ça ne va pas marcher. Je pense pas que, et je pense que c'est ça aussi qui s'essaye de
nous dire. Non, c'est une question d'éducation, en fait.
Voilà, c'est ça. C'est expliqué. Voilà, c'est une tradition. Évidemment, pour vous, vous vous sentez mal, mesdemoiselles. Si vous n'êtes pas excisées, vous vous sentez exclues. Aucun mari ne voudra de vous. Très bien. Mais il faut éduquer. Enfin, c'est ça qu'elles expliquent, hein, les auteurs, je pense, dans le livre. Et elles m'ont plutôt convaincue. C'est que ça passe par une éducation et pas du tout par une interdiction de formelle,
oui,
des condamnations.
Par la loi, c'est
voilà,
par
c'est une tradition qui est trop ancrée. Ça dure depuis l'Antiquité. Dans des tas de religions, c'est quand même très très courant. On va pas, ça va pas s'arrêter comme ça en disant stop, c'est pas possible.
Oui, et c'est qu'une partie du livre, hein, comme tu disais, on va pas s'arrêter sur ce domaine précis.
Voilà, il y a plein de, il y a plein d'autres thèmes, les clichés, le racisme en général. Et alors là, on a l'impression que c'est quelque chose de très grave, et je le rends pas du tout en parlant, mais c'est un livre qui est très drôle. On en ressort. Plein
tu peux
d'énergie.
Nous lire un petit passage, parce que c'est vrai qu'on n'a pas
non,
trouvé ça très drôle.
Non, on le ressent pas, c'est pour ça qu'il faut que... Là, en fait, on est dans un passage où donc, la petite sœur Ernestine elle discute avec son copain Jacob qui se prépare à son examen de religion. Donc, c'est un petit garçon juif. Et donc, il lui explique pourquoi il travaille son examen de prière. Et donc, la petite Ernestine lui dit mais tes parents ne croient pas en Dieu. Et il dit, du tout. Tu penses la croyance opprime les peuples, la connaissance les libère. Bon bah dans ce cas, pourquoi tu dois passer un examen de religion ? Pour emmerder les nazis. Pardon ? L'idée de mon arrière-grand-tante, qui a survécu au camp d'Dachau, c'est qu'il faut perpétuer les rituels pour faire échouer le plan des nazis. Ils voulaient nous exterminer, nous survivons. Ils voulaient un monde sans juifs, nous allons à la synagogue. Mes parents sont dans le même esprit. Ils ne croient en rien, mais ils ne ratent pas une fête juive. Ils mettent du vin cachère sur la table le vendredi soir, et chaque année, à Pâques, on se cogne toute la sortie d'Égypte. C'est long à lire, ça a pris 100 ans, il a fallu que la mer s'ouvre et tout. Et on ne commence à manger qu'une fois que les Juifs sont rentrés chez eux. Et voilà, c'est plein de passages comme ça qui sont vraiment d'accord. Très bien tournés, très drôles. Voilà, c'est dans cet esprit-là que tout est traité. Il y a des passages difficiles, mais c'est globalement un livre plein d'énergie.
Et on tu dirais à partir de quel âge?
Oui,
16 ans quand même.
Ouais, je dirais des grands ados quand même.
Et même pour adultes en fait.
Ah oui, et pour adultes aussi, ouais. Ouais. À partir du lycée quand même, parce qu'avant il y a des... Je pense que c'est un peu trop dur. Il faut même voilà. Non, c'est au lycée, je pense.
D'accord.
Ok. Seconde,
quoi. Donc top et drôle, malgré le sentiment que je vous donne, c'est très drôle.
Oh non non, tu le fais bien passer.
Ouais.
Super. Merci Pauline. Allez, on va finir cette émission avec Nico qui nous présente un livre lu et relu et extra connu, mais peut-être que certains adolescents ne connaissent pas.
Oui,
donc, à conseiller.
Émission spéciale sur les adolescents. Moi, j'ai toujours pensé que aimer lire, en fait, venait d'abord par la rencontre avec un livre. Je ne sais pas si ça vous a fait ça étant plus jeune.
Absolument.
Oui.
Voilà. Et en fait, c'est à chacun de trouver un petit peu le type de livre. Mais c'est vrai qu'être aidé par les adultes, c'est pas mal des fois. Et moi, je conseille souvent René Barjavel. Alors, souvent parce que il y a beaucoup d'auteurs qui ont commencé par René Barjavel et en 13-14 ans, ça les a vraiment marqués, cette écriture. Expliquer que René Barjavel, ben, c'est un écrivain et journaliste français quand même, hein, qui a principalement été connu pour ses romans d'anticipation. Il était fils du boulanger Aimé-Henri Barjavel, ce que je ne savais pas. Fils de boulanger et petit-fils de paysan. Voilà. Et en fait, il a fait ses études en France dans les années 1922. Donc, il a été ensuite, il a été à Cussé dans l'Allier. Donc, c'est quelqu'un du terroir hein, qui va vivre, qui est proche de la terre, proche des éléments aussi, et qui va quand même, ça va imprégner beaucoup son écriture. Donc, il a son bac en 1927. Il est pion, donc voilà comment être pion aujourd'hui puis devenir un grand écrivain, c'est possible, hein, c'est pas un mauvais métier. Employé de banque aussi, voilà, comme quoi on peut se tromper dans la vie. Et conférencier. non, je plaisante, je n'en veux pas aux employés de banque. Voilà, il débute assez tôt dans le journalisme, hein, comme Ludo, Victerol. Et puis il publie dès 1935. Pas mal de chez les éditions de Noël, il commence à publier certains bouquins. Il est surtout connu en 1966 par La Nuit des Temps, par ce premier ouvrage qu'il écrit. Et donc, c'est un livre d'anticipation, c'est-à-dire qu'il se projette déjà, lui, au 20e, 21e siècle. La Nuit des Temps raconte, en fait, comment des chercheurs scientifiques au 20e siècle découvrent, quand ils font des sondages dans le cercle polaire, découvre une profondeur environ de 1000 mètres, en fait.
Sous
la glace, voilà. Il découvre, ces scientifiques, en fait, une sphère dorée dans laquelle reposent un homme et une femme d'une beauté presque irréelle. Alors déjà, la description, le contexte, bon, quand c'est écrit en 66, révolution un peu au niveau industriel, découverte, on commence à envoyer des hommes dans l'espace, etc. Et on se pose beaucoup de questions sur les origines de l'homme, qui on est, etc. Donc, très emprunt, journaliste aussi, donc toutes ces informations, en fait, l'amènent à écrire ce roman d'anticipation. Donc, il s'avère que ces deux protagonistes sont les survivants d'une civilisation qui a été éteinte depuis 900 000 ans. Est-ce que tu l'as lu toi?
Non, je ne l'ai pas lu.
Ah, tu n'as pas lu Barjavel?
Comment ça?
T'as rien lu de Barjavel?
Non, c'est vrai.
Ça vaut vraiment le coup, Barjavel.
Ah, ouais.
C'est aussi un univers... C'est aussi un univers très particulier, on se laisse porter, parce que ça mêle à la fois découverte scientifique, ça mêle contexte politique, mais sans vraiment le nommer, tu vois.
Et belle histoire d'amour.
Et très très belle histoire d'amour à chaque fois, c'est le nec plus ultra de l'amour, quoi. C'est, là, c'est Roméo et Juliette.
Les deux personnes, ils se réveillent.
En fait, c'est ça, voilà. Alors, une question pertinente se pose, qui doit-on sauver dans l'urgence ? Après débat, le choix se porte sur Eléa, qui est la femme, donc qui semble en meilleure santé. Et cette découverte universelle va bouleverser l'équipe scientifique, ainsi que le monde entier, qui devient spectateur par le biais de la télévision par satellite. La femme se réveille. Simon, médecin de la mission scientifique et notamment narrateur du roman, tombe éperdument amoureux d'Eléa. Rien qu'à sa vue, dès le premier regard, il tombe éperdument amoureux. Donc s'instaure entre eux une espèce de connivence, et grâce à un ordinateur traducteur, la communication se crée. Donc, on est quand même en 1966 et on parle déjà d'Internet, de traduction, de satellite. Il est assez visionnaire quand même, Barjavel, dans sa vision qu'il a des choses. Et donc, il est muni d'un appareil apposé sur son front, transmet par la pensée l'histoire de son monde et évoque également l'existence de Paikan, qui est son bien-aimé, avec qui elle partage un amour idyllique d'une profondeur tellement puissante qu'on ne peut en mesurer la grandeur des sentiments. Donc il écrit ce bouquin, La nuit des temps, quand les ordinateurs commençaient lentement, à peupler quelques labos scientifiques, et on crée déjà le mini-réseau entre scientifiques, puisqu'Internet vient de là, le web, hein, c'est un réseau entre scientifiques qui collaborent pour s'échanger des données. Et quand personne ne songeait encore à une technologie hors les arts massifs, beaucoup plus évoluée que la télé, et pourtant l'auteur nous projette dans une civilisation plus brillante et plus puissante et plus sage. Enfin, pas si sage, puisque la violence et la guerre vont finalement l'anéantir dans une apocalypse aussi définitive que celle qui nous pend toujours au nez en 2015. Voilà, pas une seule seconde au cours de cette lecture. Moi, j'ai trouvé que le texte n'est pas du tout vieilli et qu'en fait, on n'est pas dans le sentiment d'Orwell, 1984, la fin du monde, tout ça. Hein. On est à la fois, on vit ça et à la fois, il y a de l'espoir. Mais c'est surtout... à la fois sur fond de d'universalité, quoi, que l'homme va perdurer et qu'il y a quelque chose au fond de lui qui est bon. Et Barjavel, en fait, met souvent ça dans toutes ses histoires qui s'appellent La fin du tigre, qu'est-ce qu'il a écrit d'autre, Une rose au paradis, Ravage, tout ça. C'est quand même des bouquins qui sont à la fois assez... qui montrent une vision du monde qui ne va pas en s'améliorant. Mais à la fois, il y a de l'espoir. Et il y a surtout la notion d'amour entre les êtres. Et ça, c'est quand même assez, assez étonnant. Et je trouve que pour des ados, c'est vraiment essentiel d'avoir lu au moins une fois Barjavel. Quoi.
Mais il est étudié à l'école, hein, normalement. Il me semble. Hein. Moi, je l'avais étudié à l'époque, à l'école Barjavel.
Peut-être.
Ce roman-là, ouais.
C'est possible.
Bon, il va falloir s'arrêter parce que Jean-Paul et Monique attendent Pauline, Nico. Hein, c'est une heure et demie.
Elle est en retard. C'est l'heure du dessert.
Son émission a dû finir. Qu'est-ce qu'elle fait?
Donc, voilà, c'était René Barjavel dans La nuit des temps. Voilà, je le conseille vraiment à partir
Absolument.
De 14 ans.
Roman d'ado, on ne parle pas de Gardien de ma vie, de Joël Batz et Louise.
Non, il n'est pas.
Peut-être dans la prochaine émission, j'en parlerai.
Parce que Valérie n'est pas là aujourd'hui, c'est peut-être pour ça. D'ailleurs, faudrait que voter pour savoir si vous voulez que Valérie revienne ou pas dans la prochaine émission sur nos réseaux sociaux.
Ah, c'est immonde.
Et par mail.
Ou alors, si vous voulez qu'elle revienne et déguisée, par exemple, ça c'est possible.
On a parlé des problèmes des réseaux sociaux, de harcèlement, tout ça. T'as pas retenu la leçon.
Non, non, mais Valérie ne risque rien. Une carapace.
C'est vrai.
Tu peux même pas t'imaginer. le thème dans deux semaines
Les a priori, les livres qu'a priori on n'aurait pas envie de lire et qu'on va lire. Et on va voir si ça vaut vraiment le coup ou pas.
Voilà, exactement. On va faire ça. Allez, ben on va faire ça pour dans deux semaines. On vous donne rendez-vous. Et dans deux semaines, ça sera le 13 novembre. Il y aura également une surprise avec un plateau radio en direct avec le groupe Deluxe à l'Antirouille. On vous attend
tout à
nombreux.
Fait, grosse soirée, belle soirée.
Belle soirée au Théâtre de Mende.
Et avec Va comme je te pousse.
Et avant cela.
Et puis Canet Sound System aussi.
Voilà, et ouvert au public. Vous pourrez venir pour cette émission d'une heure, poser des questions en groupe, les rencontrer, prendre des photos. Il y aura peut-être même Héloïse Finiels pour prendre des photos avec
aussi,
elle.
Ouais.
Ce sera énorme.
Avec eux.
Et peut-être Jean-Paul et Monique aussi. On verra. Allez, ciao tout le monde. Merci.
Salut.
Salut tout le monde.
Au revoir.
La lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. Et s'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein à la rue, plein les commissariats, plein les directionnels, plein votre vie. Tout le monde a une histoire.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de littérature où seul le style, seuls les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.